Après la diffusion de la pièce de théâtre « Nuit d'automne à Paris » de Gilles Granouillet, mise en scène par Alain Besset, nous vous proposons d'écouter un entretien avec Alain Besset, enregistré en direct à Radio Canu le 13 janvier 2003, dans le cadre de l'émission Bistentlac.
Alain Besset nous a rejoint, donc Alain Besset et Franck Grenier dans les studios de Radio Canu pour l'émission Bistentlac sur le 102.2 MHz, pour évoquer ce soir plus particulièrement Nuit d'automne à Paris et la venue de Nuit d'automne à Paris à Lyon qui sera présentée donc de cette semaine du 15 au 18 janvier. Théâtre de la Plate, non? Alain Besset, donc, c'est le Choc Théâtre. Le Choc Théâtre, c'est un théâtre qui porte bien son nom. Vous avez une volonté de faire un théâtre émotionnellement très fort. Bonsoir, tout d'abord.
Bonsoir. Excusez mon retard.
On va le rattraper. La scène qu'on a proposée à nos auditeurs, c'est cette scène de violence qui est peut-être moins violente sur quand on la voit grâce à la mise en scène que vous avez fait que quand on l'entend en brut comme ça. Mais je crois que c'est quand même un peu le propre de votre théâtre, d'être un théâtre qui va droit au cœur des événements émotionnels très forts, quoi, et de les restituer d'une manière comment dire
réaliste,
je sais pas, mais en tous les cas qui marque, quoi. C'est quand on a vu vos pièces, on s'en souvient, quoi.
Je porte un théâtre et je défends un théâtre de sens, un théâtre politique au sens noble du terme. J'aime parler avec le théâtre, j'aime dire des choses, j'aime m'interroger avec les spectateurs et m'interroger autour de ce qui construit notre vie d'aujourd'hui. Alors je me suis toujours intéressé à des événements importants parce que je pense qu'aussi le théâtre c'est un bon moyen pour avoir une volonté de voir de mémoire. Donc je me suis toujours intéressé à des sujets forts. Donc j'avais traité de la guerre de 14 avec Abattoir 17 et notamment les mutineries de 1917 à l'intérieur des troupes françaises. Après je me suis intéressé à la déportation, j'ai monté un détenu à Auschwitz. Je me suis intéressé aussi malheureusement à la montée des idées d'extrême droite avec un texte d'Ahmed Kalouaz qui s'appelait Race Blanche. Et puis j'ai découvert un auteur qui s'appelle Gilles Granouillet, qui vit dans la même ville que moi, Saint-Étienne, et qui signe là peut-être sa 7e pièce de théâtre. Et il avait envie que nos deux compagnies travaillent en coproduction. Et il m'a soumis ce texte qui s'appelle Nuit d'automne à Paris et qui traite du massacre du 17 octobre 61 lorsque, sous les ordres de Maurice Papon, on a jeté plusieurs centaines d'Algériens dans la Seine. Donc un véritable massacre. J'ai été vraiment percuté parce que, en définitive, pourtant ayant un parcours scolaire tout à fait normal et universitaire, je n'avais jamais entendu parler du 17 octobre 61 et même je me trompais, je croyais que c'était, moi quand on me disait octobre 61, je pensais métro Charonne, parce qu'il y a eu 6 intellectuels français,
intellectuels je crois pas, hein.
Qui ont été, en tout cas des français qui avaient été tués par la police française, et je faisais l'amalgame, je confondais, j'en avais jamais entendu parler de cette horrible soirée où on a arrêté, séquestré et pendant 3 jours torturé certains Algériens le 17, le 18 et le 19 octobre. Et lorsque j'ai lu ce texte, j'ai été vraiment bousculé. Il m'a semblé que c'était un texte pour notre compagnie. Et du coup, j'ai foncé et je me suis documenté, je me suis renseigné, j'ai trouvé des choses extraordinaires. Ça m'a permis de découvrir le travail de Jean-Luc Enaudi, de découvrir différents films, Le silence du fleuve, Dissimulation d'un massacre, etc. Donc, et d'organiser, enfin de de créer mon spectacle, de le créer chez nous, à Saint-Étienne, au Choc Théâtre. Donc nous venons de le jouer et de le faire vivre le jour anniversaire de cette date-là, puisque nous avons joué, nous avons créé le spectacle en octobre. Après, j'ai eu la chance que Franck, le directeur du Théâtre de La Plate, m'a fait confiance, ainsi que le directeur du Théâtre du Rio à Grenoble, et ça nous permet, après avoir joué 19 fois à Saint-Étienne, de venir jouer à Lyon pour 4 soirées, ensuite de partir à Grenoble pour 5 soirées, et ensuite de conclure à Firminy le 3 et 4 février à l'espace Le Corbusier, en espérant bien sûr que ça va pas être la fin de cette aventure et que nous pourrons la faire rebondir, et notamment en Algérie. Ça serait mon souhait le plus vif.
Oui, d'autant plus que deux comédiens algériens interviennent, ça mérite peut-être, c'était pas évident cette démarche-là, sans dire quelques mots.
Tout à fait, il m'a semblé tout à fait opportun, et aussi bien pour l'auteur aussi, hein, qui partage vraiment cette histoire, qu'il a suivi de près. Eh bien, on s'est dit, vu que les quatre protagonistes de la pièce, il y a deux Français et deux Algériens, il nous a semblé qu'il était intelligent de nous déplacer en Algérie. Donc je suis allé à Alger, j'ai réussi à mettre en place ce qu'on appelle vulgairement un casting, quoi. Mais enfin, il fallait que je découvre des comédiens algériens, des comédiennes. Donc je suis allé au mois de juillet, passer 4 jours à Alger, au Théâtre National d'Alger, où j'ai auditionné des comédiens, et donc j'ai fait un choix et je suis rentré en France en ramenant Samir Benakila et Linda Selam pour interpréter les rôles des deux Algériens qui composent cette pièce. Et je pense que pour un souci d'authenticité, et ça m'a amené plein de choses, parce que ça a permis à deux comédiens français de rencontrer deux comédiens algériens, et puis d'échanger en faisant du théâtre, et de voir fonctionner nos deux cultures, quoi.
C'était pas évident. Quand j'ai vu le titre, connaissant le sujet, je me suis demandé par quel biais on avait bien pu aborder un tel sujet. On pouvait quand même pas jouer le 17 octobre dans une salle sur une scène de théâtre. Bien que pour ce qui est d'Abattoir 17, vous vous êtes permis de jouer les tranchées et les bombardements sur une scène de théâtre. Mais bon, ça a été pris par un biais qui est presque un biais, un élément marginal, mais pas inintéressant de la situation, qui était cette réquisition d'un certain nombre de grandes salles, voilà. Y compris des salles de sport privées à Paris, pour stocker cette marée humaine qu'on a ramassée, à la sortie des métros et dans Paris, quoi. Et donc, l'argument part de là, une salle de boxe, louée ou par une ancienne pied noir déjà revenue, et qui donc retrouve là de ses vieilles connaissances, plus ou moins barbouze para, voilà. Qui vient la solliciter pour avoir sa salle pour cette nuit-là, quoi. Et bon, c'est une approche, c'était une belle démarche théâtrale, je trouve, cette idée d'aborder. Et en fait, on ira, à part cette séquence-là dont on a entendu un extrait, et encore, on n'ira jamais dans la rue, tout va se passer dans l'antichambre de cette salle, et c'est pas le moindre des mérites de l'auteur, et puis de vous dans la mise en scène, de nous faire toucher du doigt à travers un quotidien, le quotidien de ce moment-là, les réactions humaines, tout ce dont sont porteurs chacun des protagonistes, hein, l'ancien para, la dame pied noir plutôt modérée, mais quand même, le jeune algérien, la servante algérienne aussi, et de nous faire sentir le poids de leur vécu, de leur réalité, projeté comme ça, 40 ans en arrière et ramené à aujourd'hui, c'était pas évident, et c'est un pari gagné, quoi. Vous avez ce sentiment aussi ?
Oui, tout à fait, parce que au cours des représentations stéphanoises, pour des 19 représentations, bien le public est venu de plus en plus nombreux. On a eu la joie de pouvoir jouer toute la dernière semaine dans une salle, devant une salle comble, donc ça veut dire qu'il y a un véritable bouche à oreille qui s'est installé, et je pense que si c'est installé positivement, c'est que je me permets de penser que le spectacle est bon, et je crois qu'on sort pas, de toute façon on sort pas indifférent de cette pièce. Je crois que parce que aussi la texture même du texte est intéressante et bousculante, et puis on voit cette histoire à travers des quatre personnages un peu communs, à part bon peut-être le Barbou qui est beaucoup plus impliqué, mais ce qui m'intéresse c'est de montrer que quand on vit une époque, quand on traverse pas sans encombre l'histoire, et on a tous notre part de responsabilité dans l'histoire, et il est facile d'imaginer quand on s'imagine en 39 et 45, on se voit toujours plutôt résistant, quoi. C'est facile de s'imaginer résistant, c'est toujours facile de s'imaginer être un héros, et en définitive la vie elle est bien plus complexe que ça, et en ce moment je nous trouve bien, et moi y compris, je nous trouve bien aveugles et bien sans réaction par rapport à certaines choses qui sont en train de se passer, parce que on vit dans un état très répressif en ce moment, et je sais pas, il y a quand même Sangatte, etc., et on reste un peu muet devant ça. Et en définitive, qu'est-ce que la collaboration? Et là on s'aperçoit dans cette pièce, eh bien, pour une jalousie terrible de femme, tout simplement, eh bien ça va bousculer les choses, alors que ces personnages pourraient se sentir un petit peu en dehors de l'histoire, et ben ils vont être impliqués à fond à cause de leur quotidien, du quotidien. Et je crois que ça c'est réel dans la vie.
Ouais, c'est réel. C'est pas le moindre mérite de cette pièce de nous faire toucher les choses de cette manière-là, quoi. C'est-à-dire que dans la grande histoire rentre la petite histoire de chacun, voilà, des gens qui l'ont vécu, quoi. Oui.
Ouais, la grande histoire fabriquée par la petite histoire de chacun.
Ouais. Et sans pour autant évacuer le politique, la toile de fond de cette libération d'un peuple contre un oppresseur, toile de fond qui apparaît très bien dans les aspirations de la jeune servante qui milite au FLN, oui, même si le jeune boxeur, lui, est politiquement beaucoup moins déterminé.
Bien sûr, parce que lui, c'est sa volonté, c'est d'être avant tout d'être boxeur, est reconnu en tant que boxeur, et du coup il est obligé d'avoir une position un peu plus neutre, parce que sinon sa carrière va jouer là-dessus. Et j'ai eu l'occasion de lire pas mal de choses autour de la guerre d'Algérie à partir du moment où je me suis intéressé à ce thème-là, et dans l'histoire réelle de la guerre d'Algérie existe un homme, un boxeur qui ressemble étrangement à celui de la pièce Lounis. Dans notre pièce il s'appelle Lounis, et il existe un boxeur qui s'appelle Boudiaf, qui promettait vraiment qu'il allait avoir une grande carrière, et qui a été manipulé aussi bien d'un côté que de l'autre. Tout le monde se l'est arraché, et du coup, eh bien, il a disparu des tablettes de la boxe, et justement, il a disparu, lui aussi, il a disparu le fameux 17 octobre 61, on n'en a plus jamais entendu parler, alors qu'il avait été champion d'Europe. Boudiaf.
Vous avez une sorte de profession de foi qu'on trouve dans des documents de presse qui vous concernent en matière de théâtre. C'est cette phrase d'Artaud: tout ce qui est dans l'amour, dans le crime, dans la guerre ou la folie, il faut que le théâtre nous le rende s'il veut retrouver sa nécessité. Oui. C'est vraiment la ligne qui vous guide, ça?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est une phrase que j'ai rencontré dans l'œuvre d'Antonin Artaud, parce que j'ai beaucoup, je suis vraiment, je pense que Artaud est plus grand auteur de théâtre, hein. Enfin, moi, je peux pas m'en passer. Donc, je m'y complais en plus dedans. J'ai monté différents spectacles autour d'Artaud. D'ailleurs, un dernier qui s'appelle Monsieur Artaud, vous délirez. Et j'étais tombé sur cette phrase, et je trouve que pour moi, elle définit vraiment le théâtre que j'ai envie de défendre. Voilà.
Auparavant, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, vous aviez présenté Abattoir 17, donc c'est un autre auteur, mais c'est aussi un événement social. Bon, c'était la guerre de 14, mais c'était là aussi des gens en situation, et puis vous avez choisi des gens qui à leur manière, plus ou moins volontairement aussi, mais peut-être plus par écœurement et sursaut personnel que par opposition politique à la guerre. Donc on crée des actes de rébellion et ont été fusillés pour ça. C'était les mutins de 17, quoi. C'était pas un sujet facile non plus, et les spectacles sur un tel sujet ne courent pas les rues depuis 90 ans que cette guerre est finie.
J'ai eu la chance là de rencontrer un auteur qui est également directeur de compagnie à Tours, qui s'appelle Jean-Marc Doron, qui est un passionné d'histoire. Et puis bon, il y a 2 ans, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties autour de témoignages d'anciens poilus, notamment une chose qui s'appelait Parole de poilus. J'avais été énormément touché par ces témoignages, aussi bien de poilus à l'intérieur des tranchées qui souffraient de la faim, du froid, ces bombardements effroyables. Ils ont reçu sur le coin de la figure des milliers de kilos d'acier, et ça a été vraiment une sale guerre. Et donc j'avais été tellement bousculé, et je savais que ce monsieur aussi était très intéressé par l'histoire, et donc je lui ai soumis, et donc il m'a écrit une très très belle histoire sur les mutins de 17, et de montrer que des moments, il y a eu des injustices énormes, parce que à l'intérieur de cette pièce on voit, enfin en définitive, ils sont pas du tout mutins, ils sont simplement épuisés, harassés, et un chef, un supérieur va décider par lui-même, par frustration, que ces deux hommes sont des lâches et refusent le combat, et donc vont être condamnés injustement, vont passer devant un tribunal de guerre et vont être condamnés à mort, comme il y en a eu beaucoup. C'est pas de la petite histoire, c'est pas une histoire inventée. Moi j'avais vu un truc de, je crois que c'est Boisset qui a fait ce téléfilm qui s'appelle Le Pantalon. C'est une histoire vraie. Ce soldat a été juste réhabilité il y a quelques années, mais pour avoir refusé de mettre un pantalon qui était maculé de sang d'un de ses camarades, et c'est la seule proposition qu'on lui faisait parce que son pantalon était déchiré, on lui proposait un pantalon d'un autre soldat qui venait d'être tué et qui était maculé de sang, il a refusé. Eh bien, refus d'obéissance, tribunal, condamnation à mort.
Ça me plaît, Berceau. Je vous propose de nous retrouver au Conseil de guerre avec un extrait de la pièce, donc qui n'est pas présenté actuellement, mais je pense que vous redonnerez un jour ou l'autre. Eh bien, donc on retrouve, puis on parle aussi des acteurs juste après, donc au Conseil de guerre.
La loi reste la loi, et elle sera appliquée dans toute sa rigueur.
Alors commencez à l'appliquer par vous-même. Vous savez bien que vous êtes tous responsables de l'état dans lequel se trouve la France.
Est-ce tout ?
Non, ce n'est pas tout. Moi aussi, je veux parler.
Eh bien, faites vite, le temps presse.
Pour qui, général ? J'ai peur de la mort. Pas vous ? Je vous vois là devant moi, avec votre belle mise, vos beaux galons. Et je n'ai que des regrets d'avoir sacrifié ma vie pour des vaches comme vous.
Vous aggravez votre cas, soldat !
Vous voulez rire, j'espère. Comment pourrait-il l'aggraver alors que demain nous tomberons déchiquetés par des balles françaises ? Alors que nous avons tous le sentiment, maintenant, que cette guerre devrait être conduite par la base, en concertation avec nous. Mais écoutez-moi et entendez ceci. L'opinion de la majorité de nos camarades n'est pas que cette guerre doit être finie à tout prix, mais c'est qu'elle doit changer de visage.
Mais pour qui vous prenez-vous ? Vous croyez qualifié pour mener cette vaste et glorieuse entreprise alors que vous n'êtes que de la racaille ? Un châtiment exemplaire et définitif doit vous être appliqué. Allez, assez discuté, rompez !
Mort aux vaches ! Vive la Révolution ! Vive la France !
Cette semaine aussi, donc du 15 au 18, Nuit d'automne à Paris sera donnée au Théâtre de la Plate avec le Choc Théâtre, et avec nous ce soir dans les studios de Radio Canu, Alain Besset, son fondateur, animateur, metteur en scène, et puis Franck Grenier, le directeur de la Plate. Alors on voulait parler aussi du décor et des acteurs à propos de cette pièce splendide, Nuit d'automne à Paris. Un décor métallique. C'est l'image qui reste.
Oui, c'est un petit peu aussi comment rentrer dans cette pièce. Finalement, entre nous et le plateau, il y a un petit tulle tiré devant qui tout de suite nous donne un peu cette impression d'être dans les années 50-60, peut-être dans un polar au départ, on ne sait pas trop. Et puis la tension arrivant, on est de plus en plus plongé dans cette sorte de suspense et de tension. On est censé être dans les vestiaires d'une salle de boxe, et pourtant tout respire la boxe, déjà l'humidité, les petites armoires en fer. Il y a une notion assez réaliste derrière ça qui nous permet de rentrer dans un véritable univers, j'allais dire cinématographique. Et ce réel-là, moi je l'ai vécu comme porteur vraiment de la réalité de ces personnages, de la réalité de leurs conditions à l'intérieur de ce moment d'histoire. Et puis plus tard, donc sur le moment de violence dont on a entendu une petite partie, là il y a une utilisation directe de l'image projetée sur ce tulle, donc le tulle devient écran de projection et nous permet cette fois-ci des images plus documentaires d'être à distance de cette violence. C'est vrai que j'ai en réentendant tout à l'heure, j'avais moi cette impression de violence en voyant les choses, parce que l'image projetée me donnait ce décalage nécessaire pour être sûr que je sois dans la fiction et non pas confronté à de la brutalité, j'allais dire pornographique, par rapport à ça. Et c'est vrai que ce qui m'a touché, donc cet univers où on rentre vraiment dans ces années 50-60, et puis cette présence de la boxe avec toutes ces symboles, l'affrontement des corps, mais aussi la beauté du geste, le déploiement du muscle, l'agressivité dirigée. Quelque part aussi, on pourrait se dire que la scène de théâtre est un ring où on s'échange verbalement des idées, où on se donne des coups à coups de mots, puisque nous, on est censé faire les choses dans l'ordre de l'illusion. Et finalement, il y a aussi ce terme d'effort. Pour arriver à être un boxeur, il faut une volonté, il faut un entraînement, il faut quelque chose qui nous tienne sur la longueur, peut-être plus cette fois-ci le parcours de Lounis, qui lui veut absolument être boxeur. Donc pour ça, il est prêt à être français, il est prêt à mouiller sa chemise par rapport à ça. Il n'est pas prêt, bien sûr, à tuer d'autres personnes de son peuple, mais
je me lancerai pas aussi allègrement dans une apologie de la boxe, mais enfin donc c'est bien de montrer ce qu'on voit, mais je suis pas sûr qu'il y a autant de valeur dans la boxe, enfin à mon goût.
Oui, sans doute, mais c'est peut-être aussi l'affrontement qu'on a jamais. Moi je préférerais, au lieu qu'il y ait une guerre, qu'on me mette aujourd'hui deux chefs d'État et qui se fritent une bonne fois la gueule ensemble et qu'on voit un peu de ce dont ils sont capables.
Le vieux rêve grec.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'on envoie toujours la population? C'est que tout simplement les véritables débatteurs, ceux qui sont sur le ring de la politique, ne veulent pas mouiller la chemise, ne veulent pas mouiller les pieds, ne veulent pas faire jaillir du sang de leurs veines. Et qui est donc le sang de la nation si c'est le petit peuple? C'est lui qu'on envoie à la boucherie. Donc un jour, peut-être, en rassemblant sur un ring ceux qui ont la volonté de faire la guerre, peut-être qu'on arriverait à quelque chose d'un peu plus humain.
Faut pas confondre la volonté et la volonté de tirer profit de la guerre, c'est pas la même chose.
Oui, mais
je voudrais revenir aux acteurs. Arrêter le débat là-dessus, parce que je pense pas que ce soit très productif.
Peut-être une dernière chose sur la boxe, c'est de dire aussi s'il existe de la boxe, c'est parce qu'il y a des spectateurs, et c'est qu'il y a des spectateurs qui aiment voir, sentir aussi cette violence, comme si la violence.
Mais il y a aussi des spectateurs pour la tauromachie, c'est pas une raison suffisante pour la justifier, hein, à mon goût. Enfin, bon, c'est un autre débat. vous avez des acteurs merveilleux, Guy Payot en particulier, qui est un peu votre comparse en théâtre, non, je pense.
Oui, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien travailler. Il m'a vraiment, je l'avais vu sur scène dans un spectacle qui s'appelait Garçon un Kyr, un très beau spectacle il y a quelques années en Avignon, un spectacle qui a fait le tour du monde d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de mots, c'est qu'un jeu corporel ou des onomatopées. Donc puis à la sortie du spectacle, j'avais échangé avec lui, on partageait vraiment la même définition du théâtre. J'ai eu l'occasion de l'engager pour une adaptation que j'ai faite du film de Carnet, Hôtel du Nord, que j'ai adapté au théâtre. Donc c'est la première fois que je l'engageais. Ensuite, il m'a vraiment, donc sur scène, on avait une grande complicité. Donc je l'ai réengagé dans un texte, pour un texte d'Ahmed Kalouaz qui s'appelait Race Blanche, où il interprétait aussi un rôle fort d'un mafieux politico-mafieux d'extrême droite, en même temps docteur. Et puis ensuite je l'ai engagé pour jouer un des mutins d'abattoir 17, et il me semblait que le rôle de Zal lui ce serait quelque chose qu'il aura envie de défendre, parce que c'est pas un rôle facile, c'est un rôle il faut des acteurs qui n'ont pas peur, comme tu disais tout à l'heure, de mouiller la chemise, de se faire mal, entre guillemets, je veux dire, parce qu'il joue le rôle du salaud, il joue le rôle de la brute, le rôle du fasciste, quoi, le rôle du tueur, du violeur, donc c'est des rôles lourds, et je pense que c'est un comédien que j'apprécie, oui, énormément.
Il a une trempe formidable, quoi. S'il fait penser à quelqu'un dans une génération légèrement décalée, c'est à Michel Bouquet, quoi. Cette sorte de qualité de travail-là, quoi. Et pas rien que pour lui, parce qu'il y a tout un ensemble, mais il mérite, il gagne à être connu comme acteur. Je sais pas si on le verra dans beaucoup d'autres choses. Il fait peut-être un peu de cinéma.
Un petit peu. Il est installé en région parisienne, lui, donc il fait un petit peu de téléfilm.
Mm-hmm. Voilà. Donc une équipe d'acteurs qui sert merveilleusement bien cette pièce. Mais enfin, j'ai vu deux de vos pièces à chaque fois. J'aurais pu dire la même chose. Donc je pense que c'est vrai pour toutes les autres aussi. On peut peut-être évoquer un peu vos projets aussi. Vous reviendrez nous voir avec quoi d'ici un an ou deux?
Bien, l'objectif est quand même, j'espère que cette pièce va continuer à vivre et pourra être diffusée et montrée en Algérie. Ça, c'est mon souhait le plus vif. Il semblerait que quelques pistes sérieuses se dessinent. Donc ça, c'est très bien. J'en suis ravi et j'espère que ça va se concrétiser. Mon prochain spectacle, ce sera en octobre 2003. Il verra le jour en octobre 2003 à Saint-Étienne, chez nous, au Choc Théâtre. Nous répéterons, comme je l'ai fait avec Midoton à Paris, nous allons répéter fin août, tout le mois de septembre. C'est une pièce qui m'a été écrite par un auteur qui s'appelle Mario Morisi. C'est sa première pièce de théâtre. C'est un romancier, lui, romancier journaliste, très engagé politiquement parce que il a créé différents journaux, dont un journal que j'aimais beaucoup, un journal marginal, dont il avait inventé le concept qu'on trouvait que dans des lieux publics, notamment les bars, ça s'appelle l'écho du zinc. C'était une expérience qu'il a conduit à Besançon et à Marseille. Ça fait une petite dizaine d'années que je l'ai rencontré. Comme il est journaliste et s'intéresse beaucoup au spectacle vivant, il a eu l'occasion de voir toutes mes productions théâtrales pratiquement. Et donc, un jour comme ça, où on échangeait un soir, il était malheureux parce qu'il venait de terminer un roman que je trouve puissant, mais qui n'a toujours pas trouvé d'éditeur. Je lui ai dit, mais écoute, par plaisanterie, je l'ai mis au pied du mur en lui disant, écoute, tu vois, ton dernier roman, t'arrives pas à le faire éditer, alors écoute, pourquoi t'essaierais pas d'écrire du théâtre? Au moins tu seras joué. Parce que si tu écris pour le théâtre, ben moi je montrais ce que tu écriras. Et il m'a pris au mot, hein, et quelques mois plus tard, il m'a dit, écoute, j'aimerais qu'on tente une expérience. J'ai un thème, la Libye, c'est le football, mais c'est sur la perte d'identité. Et ça s'appellera Orfeo Baggio, du nom du footballeur Baggio, qui a raté ce fameux penalty pour la Coupe du Monde aux États-Unis, qui a disqualifié en définitive, qui a fait perdre la Coupe du Monde à l'Italie. Et c'est un personnage assez fantastique, parce que c'est un peu un footballeur hors du commun. Notamment, c'est un très très grand joueur, mais à côté de ça, il a toujours été marginal. Il est pas maqué dans la profession. Il a pas de manager. Il a toujours un peu fait ce qu'il voulait. Et souvent, il a eu des périodes où sa carrière était vraiment mise en danger, puisque il a eu une rupture des ligaments du genou très jeune. Il a été, c'est marrant parce qu'il a été opéré à Saint-Étienne. Alors il y avait des connexions comme ça qui se faisaient par le professeur, un grand spécialiste du genou qui est mort maintenant, qui s'appelle professeur Bousquet. Et tout le monde avait dit qu'on le reverrait plus sur les terrains. Et quelques mois après, il était à nouveau sur les terrains, tellement qu'il a une force psychique énorme. Et il est bouddhiste. Donc c'est un personnage assez hallucinant. L'histoire, c'est quelqu'un qui se prend pour Baggio. Hein, c'est sur la perte d'identité. Ça se passe, en plus, il y a une histoire de suspense policier. La toile de fond, c'est la guerre. Il y a une guerre civile. Enfin, il y a beaucoup de thèmes à l'intérieur de la pièce. Et ça, c'est un huis clos, ça se passe dans un commissariat de police. Et comme il y a une catastrophe de guerre comme ça, c'est un moment où il y a des explosions, on arrête ce type qui dit qu'il est Roberto Baggio, et il vient d'être arrêté à côté d'une bibliothèque municipale où on vient de trouver la bibliothécaire violée et assassinée. Et tout penche dans la balance pour qu'on suspecte cet homme-là d'être l'assassin. Et lui dit, mais vous me reconnaissez pas, je suis Roberto Baggio, etc., etc. Et comme tous les moyens de communication ont explosé, il y a plus de téléphone, il y a plus de fax, il y a plus d'ordinateur pendant un moment. Donc c'est parole contre parole, quoi. Hein. Donc les flics le cuisinent et lui reste sur sa position. Voilà, voilà le thème un peu.
Une autre pièce qu'il faudra donc venir nous présenter à Lyon, comme
l'association. J'espère.
On va dire quand même à nos auditeurs qu'ils peuvent écrire pour avoir vos programmes, parce que Saint-Étienne, c'est pas si loin que ça, dans le fond, avec une voiture, hein, au Choc Théâtre, qui est 24 rue Bernard Palissy, 42 100 à Saint-Étienne. Ils peuvent l'appeler au 04 77 25 39 32. Ça, c'est pour vos productions au fil de l'année et des années à venir. Pour l'heure, donc, il s'agit de Nuit d'automne à Paris, qui sera donnée, je le rappelle, ce mercredi 15 au samedi 18 janvier au Théâtre de la Plate à Lyon. Et que pour réserver, eh ben, c'est Franck qui va
le 04 78 39 25 89. Il reste encore quelques places, mais dépêchez-vous.
Voilà, je remercie donc nos deux invités, Franck Grenier et Alain Besset, et on termine cette émission en écoutant un extrait de la chanson Paris sur scène, qui évoque justement le 17 octobre, dont je ne connais ni l'auteur ni l'interprète, un document que j'ai réclamé comme ça, sans savoir d'où il vient. Et puis, j'invite donc nos auditeurs à découvrir.
الأخرفت للادي الصمتين يا إيمان هزال مصري لالا عامين وظامل الأخرف تورا لا لا ديا صامتينا.
Cette pièce, ça veut pas dire merveilleuse, c'est pas un conte de fées du tout, mais c'est une pièce dont on ne sort pas indemne, ce qui n'est pas la moindre vertu du théâtre. Bonsoir.
Merci, bonsoir.